18e édition de la Comédie du Livre de Montpellier. Comédie qui est consacrée, vous le savez, à la littérature de l'Algérie et celle des pays du Maghreb. Mais une large part est faite, aussi, et la carte blanche à Mathias Sénard, et une large part cette année pour les littératures dites de l'imaginaire. Autour de moi, donc, aujourd'hui présent, André-François Rulot, bonjour. Et puis Jérôme Vincent, bonjour. Alors vous représentez donc la maison d'édition Les Moutons Électriques.
Voilà, c'est ça, Les Moutons Électriques.
Voilà. Et vous, ce qui était avant un webzine spécial littérature, voilà, qui est toujours aussi, qui est aussi devenu une maison d'édition depuis, c'est-à-dire à QSF.
Exactement.
Alors, il nous manque quelqu'un, et ça a quand même son importance. Il nous manque Frédéric Veil, qui aurait représenté les éditions de Demos. Et à vous trois, vous êtes devenus cette année les indés de l'imaginaire. Alors, je vais peut-être vous laisser le soin à chacun de présenter, avant qu'on cause vraiment des indés de l'imaginaire, je vais vous demander de présenter chacun vos maisons d'édition et ce qu'elles ont de spécifique.
Alors, les éditions Demos, puisque il n'est pas là, on va parler de lui quand même. Hein. Donc, la maison Demos a été créée il y a 17 ans. Et elle est à l'origine de la fantaisie en France, à savoir qu'elle a véritablement fait émerger une génération puis une autre d'auteurs français qui, pour la première fois, faisaient de la fantaisie. Et encore de nos jours, ils publient aussi de la science-fiction, mais bon, ils sont très très axés à fantaisie et ils ont un gros catalogue. Et ils sortent depuis peu aussi une collection de poches qui s'appelle Helios. Ils faisaient déjà du poche autrefois, ils sont revenus en plus des grands formats. Quant à ma propre maison, Les Moutons Électriques, elle a été créée entre fin 2003 et début 2004, donc il y a bientôt 10 ans. On est basé à Lyon et ça a été créé par toute une équipe de traducteurs, de graphistes, d'amateurs, d'auteurs, etc., amateurs des littératures des genres en général et de science-fiction fantasy en particulier. Et puis, bah donc, c'est ce qu'on publie. Voilà, on est éditeur de littérature de genre en général, donc science-fiction, fantasy, et quelques gouttes de fantastique et un petit peu de polar. Et on fait également des livres à propos des genres, c'est-à-dire des essais sur les grandes thématiques des imaginaires actuels, genre je sais pas, les zombies, la guerre des mondes, le space opéra, les fées, etc.
Juste pour, si je peux te donner un conseil de lecture aux gens ici présents, si on était suffisamment courageux pour braver les intempéries, j'ai animé la rencontre où il y avait Estelle Faye qui a édité, enfin, dont vous avez édité Porcelaine. Et que je recommande à tout le monde. Jérôme Vincent.
Eh bien, je pousse aussi sur le personnel de Stéphane. ActuSF, c'est donc d'abord un site d'actualité sur littérature imaginaire, sur la science-fiction, le fantasy et le fantastique. Et depuis 2007, c'est aussi devenu une maison d'édition. On a fait des livres avant, mais c'est devenu une maison d'édition sérieuse avec un vrai planning, avec des vrais imprimeurs, etc., depuis maintenant 6 ans. Et nous, on édite donc science-fiction, fantastique, fantasy. Plutôt des recueils ou des courts romans, ce qu'on va appeler des novellas, et puis des petits guides aussi sur l'imaginaire, que ce soit un guide philicalique ou là on vient de sortir un guide de steampunk.
C'est ça. Alors, vous ne l'avez pas dit, mais vous êtes basé aussi en région Rhône-Alpes.
Ouais, alors nous c'est compliqué, on a été en région parisienne, on est descendu à Lyon, puis on est reparti à Paris, puis maintenant on est à Chambéry. Nous sommes des éditeurs voyageurs.
D'accord. Et vous êtes donc tous les trois.
Et Nemo, c'est dans le Beaujolais. Ils étaient parisiens auparavant et maintenant ils se sont installés dans le Beaujolais.
Vous êtes tous les trois diffusés par Henri Mondi.
Absolument, ouais.
Et vous avez donc créé ce collectif qui s'appelle Les Indés de l'Imaginaire cette année. Donc expliquez-nous un peu comment ça s'est passé.
D'où ça vient l'idée, Jérôme?
Alors, la première idée, en fait, c'est se retrouver ensemble au sein du Livre de Paris avec Mnemos, sur le stand de la région Rhône-Alpes, et en étant ensemble, c'est-à-dire les stands juste à côté, pour se dire, voilà, si quelqu'un aime la science-fiction ou la fantasy et rentre dans le stand du Livre de Paris, il sait qu'à cet endroit-là, il y aura deux éditeurs. Enfin, il y a peut-être pas d'éditeurs, deux éditeurs, mais en tout cas, on a des arguments supplémentaires pour qu'ils passent nous voir. Et puis en discutant avec Demos, on s'est dit, mais on peut faire beaucoup plus et aller beaucoup plus loin. dans la mutualisation et dans la visibilité. Par exemple, en descendant en commun sur les salons, par exemple, mutualiser les sorties, par exemple, faire tout un tas d'opérations de communication de manière à être visible, puisque la problématique de nos maisons, c'est qu'on est des relativement petits par rapport à des grands groupes et qu'on manque parfois un petit peu de visibilité. Mais comme on s'entendait bien et qu'on avait du respect pour le travail que chacun faisait, il y avait une envie de ce rapprochement. Et puis, entrer juste après dans les discussions, parce qu'on aimait de toute façon le travail et qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on avait un respect. Et qu'en plus, on avait un diffuseur distributeur, ce qui arrange pas mal des choses. Et qu'en plus, on est dans la même zone géographique, ce qui est vachement bien. Donc, on est très bien.
L'histoire, vous la raconteriez pareil ?
Non, j'étais pas là donc au sein du livre, mais enfin bon, dès que Fred et Jérôme m'ont proposé qu'on s'associe à trois, bon, j'ai hésité, hein, au moins un quart de seconde, et voilà, l'idée est tellement, tellement bienvenue que on a foncé tout de suite.
Alors on sait, on est dans une culture un petit peu qui est peut-être plus particulièrement en France qu'ailleurs, qui a tendance à hiérarchiser des genres littéraires. Il y a les sous-genres, il y a la littérature pour les enfants, la littérature pour les adultes, la bonne science-fiction, la mauvaise, les auteurs qu'on vend, les auteurs qu'on vend pas, etc. etc. Est-ce que ce regroupement, finalement, il est aussi là pour lutter contre ce problème-là de non-médiatisation ?
Très clairement, comme l'a dit Jérôme, notre problème numéro un, c'est la visibilité. Le problème numéro 2, c'est le manque de reconnaissance des littératures de genre. Par conséquent, il faut que nous sommes tous les trois des militants des littératures de genre. La preuve, c'est que vraiment, Demos a une importance historique énorme pour la création de la fantasy par des auteurs français. Donc c'est carrément pas rien. Et donc voilà, on milite pour les genres et les indés d'imaginaire, c'est pas seulement un véhicule pour mutualiser notre communication de notre maison, mais c'est aussi un véhicule pour militer pour les littératures de l'imaginaire, aller voir les instances officielles, leur expliquer que on existe, c'est bien ce qu'on publie, aller voir les médias, être remarqué par les salons, parce que c'est un des effets des années d'imaginaire, c'est pour ça qu'on est là. À peine avions-nous annoncé la création que la Comédie du Livre aussitôt nous a invités, c'est un bel effet.
Alors, ce qu'il faut comprendre, mais c'est pareil pour tous les éditeurs et pour tous les genres, c'est que la littérature, on fait souvent ça par passion, et pas vraiment pour gagner des sous. Donc, il y a vraiment les passionnés et ceux qui y croient, qui se lancent dans ce genre d'affaires. Et il est évident que si on monte des maisons d'édition de science-fiction fantastique et de fantasy, c'est parce qu'on est d'abord des fans et des passionnés, et que dans toute démarche, il y a à la fois la volonté de faire des livres, mais il y a aussi la volonté de porter un genre et de le défendre, très clairement. Sur le manque de visibilité, oui, on manque de visibilité, mais heureusement, le nombre ne fait pas sa une sur la science-fiction toutes les semaines, parce que c'est bien dommage, mais on y travaille.
Quand Johan Svar se met à écrire sur les vampires, que c'est raté.
Exactement.
Voilà.
Il faut aussi comprendre que sur tout ce qui est littérature imaginaire, il y a le cinéma, il y a des effets de médiatisation et des auteurs qui ont beaucoup, beaucoup de public et de presse. Et puis il y a nous, et en plus, non seulement on défend la science-fiction, mais on défend aussi la qualité.
C'est ça.
Et voilà.
À une époque où justement ces collections, alors voilà, après Buffy, enfin après, on va dire d'abord Harry Potter, et puis après il y a eu Buffy, etc., et ça se multiplie en fait, que ce soit au cinéma ou ces collections dites pour adolescents en fait. Vous êtes aussi né pour ça, pour essayer de peser dans la balance.
Oui, on est aussi né pour dire qu'il peut y avoir une littérature de genre de qualité.
De qualité, c'est ça.
Une littérature imaginaire, un peu ambitieuse, quoi. Et pour défendre notre place aussi, hein, très clairement, ces dernières années, effectivement, le rayon science-fiction fantasy a été croule sous les productions commerciales traduites de l'Amérique. Or, nous, notre truc, c'est justement faire la création francophone en grande partie, ou des traductions de choses que les autres n'ont pas traduites. Donc, et bien entendu qu'on défende notre point de vue pour dire, c'est de la littérature, on existe.
Comment vous avez... Alors déjà, est-ce que vous allez... Ce regroupement va vous permettre, puisqu'on sait quand même aussi que ça a quelque chose de politiquement correct, hein, ce genre de regroupement, quand on va voir justement les institutions, c'est très bien, on a bien fait tout comme il faut. Est-ce que vous allez réellement bénéficier de soutien, par exemple, de la région?
Bonne question, évidemment. Si on fait un collectif, il est évident qu'on a plus de poids dans les discussions avec la région, avec les libraires, avec les salons, avec ça. Donc, une des discussions et un des efforts qu'on fait, c'est évidemment des discussions avec les représentants de la région Rhône-Alpes et du secteur du livre. C'est des choses qui se mènent sur le long terme. Mmh. Je ne sais pas si c'est bien vu, en tout cas, c'est plutôt bien accueilli. Maintenant, il ne suffit pas de faire un collectif pour que d'un seul coup le carnet de chèques sorte et que d'un seul coup on croule sous les subventions et qu'on soit riche. C'est bien vu, c'est un plus. Voilà. Mais on fait pas un collectif pour être bien vu. En fait, il y a plusieurs axes. La région n'est qu'un des axes. Alors, on parle de visibilité, en train de commencer à le dire. On a des problèmes de visibilité dans les rayons imaginaires, notamment parce qu'il y a l'émergence du young adult qui. A fait que d'un seul coup on a deux fois plus d'éditeurs sur un même espace. Quoi. Donc il est évident que ça c'est un des axes forts sur lesquels il faut qu'on développe. Il faut aussi qu'on travaille sur la région, il faut aussi qu'on travaille sur les lecteurs, il faut aussi qu'on travaille. Voilà.
Est-ce que vous envisageriez d'ouvrir des portes à d'autres éditeurs, je pense à Critique quand même?
Alors,
ils partagent le même diffuseur.
Ouais, ils partagent le même diffuseur. Il faut comprendre que créer un collectif comme ça, même si on s'aime beaucoup les uns les autres, on est quand même trois entreprises différentes, et déjà dialoguer à trois, c'est à la fois extrêmement riche et extrêmement fécond. Donc on essaie déjà de bien fonctionner à trois, et puis évidemment après on verra comment on peut ouvrir les portes, quoi, et comment on peut faire. Mais déjà travailler ensemble dans la même zone géographique pour se voir, se discuter, etc. Et puis on verra comment est-ce qu'on peut évoluer. Pourquoi pas, hein, mais dans une version V2.
D'accord. Dès le début, lorsqu'ils m'ont présenté ce projet de collectif, dès le début, ils m'ont dit que voilà, ça serait pour, à terme, être avec d'autres éditeurs d'imaginaire, mais voilà, c'est suffisamment compliqué et passionnant, mais compliqué, et dévoreur de temps et d'énergie d'être à trois et d'apprendre à travailler à trois et de coordonner nos catalogues, notamment,
alors justement,
de coordonner nos actions en salon. Tout ça, ça demande un travail considérable. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, à savoir comment ça fonctionne un collectif. Il y a tout à bâtir. C'est une aventure formidable. Hein, et puis, je crois que ça nous motive formidablement de soutenir les uns les autres, de discuter les uns les autres. Donc, c'est extrêmement positif, mais ce n'est pas simple. Donc, pour l'instant, on est trois.
Et alors du coup, justement, sur cette partie qui m'a posé des questions, vous partagez du coup aussi un catalogue, ouais. Celui des amis de l'imaginaire. Et comment on fait avec un catalogue partagé comme ça pour faire ressortir les spécificités de chacun, en fait?
Là, c'était pas le but n'était justement pas de faire ressortir dans le catalogue ensemble, c'était pas de refaire sortir les spécificités, mais au contraire de faire ressortir à quel point on est complémentaires, à quel point on est ensemble. Et on voulait, on a été égalitaire, il y a sur chaque page trois titres, un titre de chaque maison d'édition, on a bien discuté de nos choix, et c'était pour, en fait c'était la première vitrine que nous offrions aux indés, c'était de faire ce premier catalogue, on en fera d'autres, on est en train de préparer un journal gratuit de 16 pages couleurs qui paraîtra deux fois par an, et là on est en train de mettre sur pied le premier. Là, c'est une deuxième opération papier, si j'ose dire, et puis il y en aura d'autres.
Alors du coup, j'ai, sur vos réseaux sociaux, j'ai pu lire que vous vous opposiez à ce dispositif qui s'appelle Relire, c'est ça? Alors avant d'aborder un peu plus, et vous concernant la question du numérique, est-ce que l'un d'entre vous aurait la gentillesse de nous expliquer assez finement ce qu'est ce dispositif, en quoi il consiste?
Bien, si vous avez un petit peu de temps, on y va. Alors, donc Relire est un dispositif mis en place par la Bibliothèque nationale de France pour numériser les titres qui ne sont plus disponibles en librairie et qui ont été publiés au XXe siècle. Et comme il y a tout un problème, mais
il y a tout un tas d'auteurs qui sont encore vivants, et donc de livres qui sont sous droit, mais qui ne sont plus commercialisés en librairie pour X ou Y raison. Plutôt que de demander à chaque auteur s'il souhaitait une numérisation pour intégrer le catalogue de la Donetsk et que ce leur liste soit disponible en numérique, ils ont décidé de faire l'inverse, de publier une liste en gros, pour et ce sont aux auteurs de s'opposer à ce que leur ouvrage soit publié en numérique. En gros, on leur demande leur avis, mais après, une fois que
c'est dans l'esprit de nul n'est censé ignorer la loi.
Ouais, il y a un peu de ça. En fait, l'esprit de la VNF, parce qu'on a eu pas mal de discussions sur la culture, l'idée c'était de pouvoir rendre le catalogue du 16e, du 17e, du 18e, du 19e accessible en numérique, en fichier EPUB pour tout le monde. Et puis, quand ils ont fait tout ça, et puisque Google numérisait sauvagement tous les livres, ils se sont dit, on va aussi faire le 20e siècle. Le problème du 20e siècle, c'est que ça représente à peu près 600 000 livres. Et que du coup, numériser 600 000 livres et demander surtout à chaque auteur ou à chaque ayant droit s'ils acceptaient que la Bibliothèque nationale de France numérise leurs livres sans leur accord, c'était compliqué. Donc ils ont décidé de le faire. Ça, c'est la version, je vous fais la version bonne conscience. Voilà, la version bien affichée. Donc l'idée, c'est de se dire, plutôt que de contacter tout le monde parce qu'on n'a pas le temps, on publie tous les 6 mois une liste de milliers de titres et ce sera aux auteurs, aux éditeurs ou aux ayants droit de s'opposer à la numérisation de ces livres. Bon, évidemment, ça pose souci. Et ça pose plein de soucis. Alors, ça pose souci en premier lieu aux auteurs sur l'accès à cette liste, sur la manière de s'opposer. Ça pose des soucis aux ayants droit. C'est-à-dire qu'il y a des ayants droit à qui on demande un certificat notarié pour vérifier qu'ils sont bien les descendants de leur père, par exemple, ça arrive à Natacha Wagner, par exemple, qui est la fille de Laurent Wagner, qui est malheureusement décédée, dans le monde de prouver.
Ça a un coût,
300 €, c'est des démarches, c'est un petit peu compliqué, donc on ne trouve pas ça très juste. En tant qu'éditeur, ça quand même nous pose de sérieux problèmes, nous, sur le travail qu'on fait de manière patrimoniale, de réédition, de remise en avant des titres. Papier, ça pose des problèmes d'engorgement du marché numérique, parce que s'il y a surproduction, on imagine bien que 600 000 titres d'un coup, aujourd'hui il y a 170 000 titres numériques disponibles en France. Imaginez si en 3 ans il y en a 600 000 de plus qui arrivent. L'engorgement et la visibilité. Voilà, et en plus. On
est payé avec les deniers publics.
Voilà, payé avec les deniers publics, vendu par une société privée, avec en plus des intentions, là on parle de bonnes intentions, mais. Il y a des gros éditeurs qui, globalement, vont s'en servir pour avoir leur catalogue numérisé complètement gratuitement. C'est-à-dire, sans qu'ils ont ça à un centime, ils auront des fichiers du tout. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur certains auteurs, c'est que si on ne s'oppose pas avec le livre publié en numérique, pour les livres dont les éditeurs n'ont plus les droits, c'est 50-50. Donc, BNF s'engage à reverser 50% des ventes, enfin, du bénéfice, du moins, à l'éditeur et 50% à l'auteur. C'est-à-dire que l'éditeur, ne faisant plus son travail de commercialisation d'un livre papier, n'ayant pas fait le travail de commercialisation d'un livre numérique, va en plus toucher sur un truc où il n'a pas fait le boulot, ce qui a mis pas mal d'auteurs en colère. Ce qui, nous, en tant que professionnels, pour le coup, en tant qu'éditeur, André est aussi auteur, donc il a la double casquette, mais ça nous pourrit aussi un petit peu les rapports auteur-éditeur. Donc tout ça, c'est quand même une vaste fumisterie. Et donc on a décidé au sein des Indés de dire ok, les auteurs se sont exprimés, mais nous aussi en tant qu'éditeurs on s'oppose à ce dispositif.
D'accord, mais les auteurs se sont beaucoup exprimés et c'est tant mieux, mais seulement les auteurs. Or sont lésés également les éditeurs qui ne font pas partie du syndicat national de l'édition, c'est-à-dire pas les gros parisiens, et également les bibliothèques. Or les bibliothèques ne se sont pas à ma connaissance exprimées du tout, et sans doute par devoir de réserve administrative, j'imagine, ne doivent pas pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est encore une situation qui est dramatique, quoi. Elles sont lésées, elles n'ont pas le droit de le dire. Et nous, les éditeurs, on commençait à se faire mal voir, parce que, comme si on était complices de ce hold-up. Parce que c'est un hold-up, ça veut dire que est soudainement exproprié la totalité des œuvres du XXe siècle. Et ce au profit d'une administration, le BNF et de l'agence SOFIA, et ensuite d'une revente à des intérêts privés. Donc c'est pas comme si la BNF numérisait avec une autre donnée publique, mais pour donner l'accès gratuit au patrimoine du XXe siècle. Non, pas du tout. Ça, c'était le discours bien pensant d'origine. La vérité, c'est que la BNF, via la SOFIA qui va gérer tout ça, va vendre les numérisations effectuées avec l'argent public. Ce qui veut dire que ça va faire, comme le disait Jérôme, un engagement fabuleux et une concurrence déloyale. Parce que les 600 000 titres vont arriver sur le marché financés par les deniers publics, mais vont être vendus par des entreprises privées qui sont nos concurrents, qui sont d'autres éditeurs. Donc voilà, donc il nous a semblé qu'il était opportun, au nom des IND, d'exprimer notre rejet du dispositif Voilier.
Alors justement, sur cette question du numérique, est-ce que les IND, en fait, vont vous permettre d'avoir des coudées plus franches pour proposer soit des choses qui seraient de l'ordre de l'exceptionnel, genre des applications, pourquoi pas des applications, on sait qu'en SF et en littérature de l'imaginaire, il y a un énorme créneau à prendre là-dessus, soit un modèle économique un peu plus pérenne en matière d'édition numérique. Comment vous vous situez par rapport à cette question du numérique ?
Bien, c'est simplement, on va voir. On ne peut pas répondre à autre chose, on ne s'en est pas encore occupé. Ça fait partie des grands chantiers que d'emblée les Indés ont inscrits à leur programme, mais le programme est très compliqué, très lourd, et le volet numérique où effectivement on veut mutualiser nos moyens pour développer de l'e-pub, mais effectivement de l'appli, des choses comme ça. C'est dans le futur également développer un site de vente en ligne de l'ensemble de nos titres. Tout cela, c'est dans le futur proche, j'espère, mais ce n'est pas encore fait.
Il faut comprendre que les indés d'imaginaire, officiellement, la création, c'est janvier. On discute véritablement depuis octobre. On est au mois de juin. Il y a déjà deux opérations commerciales à destination des libraires. Une opération de visibilité au mois d'août, des stands mutualisés sur 5-6 salons. Plus un magazine gratuit qui arrive au mois d'août, ça fait déjà beaucoup d'opérations et on a plein d'idées. Parce que l'avantage d'un collectif, c'est que du coup tout le monde arrive avec ses idées et on a plein d'idées et des choses parfois complètement folles. Donc voilà, un petit peu de temps et puis tout ça sera à table.
C'est ça, quand les éditions Brage Lone, je crois qu'ils ont proposé 300 titres à 99 cents pendant quelques jours, ça c'est des opérations commerciales qui vous font trembler ou...
Moi j'ai la spécificité d'avoir une librairie numérique, qui s'appelle Imaginaire, qui du coup vend les titres de tous les éditeurs, et pas seulement les miens. Donc l'opération Brajolone, elle pose deux soucis. Elle pose un souci sur les contrats d'auteur, typiquement, puisque en fait le prix de vente du livre numérique chez Brajolone n'est pas fixe, donc le pourcentage n'est pas fixe, il est sur le prix coûtant. Qui pose des problèmes, on a une petite faille juridique, hein, on se pose des questions. Deuxièmement, très clairement, ça marche, mais ça pose deux soucis. Un, quand il faut une opération 300 titres à 1 euro, ça veut dire que 15 jours après, vous n'avez plus de temps, parce que les gens sont gagnés. Deux, ça pose quand même une vraie question du prix du livre numérique et de la valorisation du prix du livre numérique. Est-ce qu'il est bon d'avoir des romans à 1 euro ou à 50 centimes ou gratuit. Je pense qu'il y a tout un champ très intéressant où on peut faire des promotions, on peut faire des mises en avant, on peut faire plein de choses, et on en discute avec Lemos et Lemos Électrique. Après, appliquer des techniques de grande distribution et de centres commerciaux à du livre numérique, est-ce que c'est souhaitable? Je ne suis pas bien sûr.
Mais est-ce que ce serait pas plus riche quelque part de se pencher sur des réflexions de vraies lectures augmentées? Enfin, on sait que vous avez à voir très étroitement avec le jeu de rôle, vous pouvez avoir à voir aussi avec le jeu vidéo quand il est de grande qualité. Est-ce que ça vaut pas plus le coup à être regroupé, de mettre le paquet sur ce genre d'action?
C'est voilà, encore faudrait-il trouver le financement pour cela. Nemos a déjà une expérience en la matière avec Kadat, et donc ça c'est super intéressant, parce qu'ils ont un livre augmenté, qui a été vraiment récompensé, très très remarqué. ActuSF et les moutons, on n'a pas l'expérience en la matière, et puis on n'a pas les financements encore, donc on y songe. Il y a des choses que les uns ou les autres ont proposées comme développement tout à fait originaux dans le domaine du multimédia, j'en dirai pas plus. C'est très excitant comme idée. Il me semble que les unes et les autres sont tout à fait faisables, mais là encore, ben, il nous faut du temps. Quoi.
La vraie problématique du visionnaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ventes ne sont pas encore assez importantes pour générer un modèle économique qui nous permette d'investir. Mmh. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'un numérique, on va le vendre à 30, 40, 100, ou voire 200 exemplaires, mais on va toucher pas grand-chose sur ces ventes, puisque auteur, distributeur, tout le monde a une part importante. Et en tout cas, on n'a pas de modèle économique pour dire, eh ben, on va investir 100, 200, 300 euros, et on va se rembourser là-dessus. Quoi. C'est, le numérique, c'est encore un pari pour l'avenir. Alors pour nous qui sommes petits, hein, dans les grands groupes, c'est un petit peu différent. Mais du coup, il n'y a pas les budgets. Quoi. Donc on essaye de faire de l'innovant à pas cher au mieux.
Ouais. Et alors, cette opération de petit déjeuner avec les libraires, ça consiste en quoi ? C'est une sorte d'office
Alors, l'idée. Les éditeurs sont des séducteurs. On séduit les auteurs pour qu'ils viennent nous proposer des projets. On séduit notre diffuseur distributeur pour qu'ils défendent les livres. On essaye de séduire les auteurs. On va passer sur les stands, vous allez voir comment on va faire des sourires en vendant les livres. Et puis, il y a un acteur qui est clé pour nous, parce que le libraire, c'est Dieu. Hein, c'est-à-dire que quand Dieu aime votre livre, là, il en vend plein. Donc, on essaye de séduire les libraires et on leur propose, en fait, l'idée, c'est de, sur une région donnée, de les inviter à faire un petit déjeuner avec eux, où on va leur proposer toutes nos nouveautés et où on va surtout leur parler de nos nouveautés et engager un dialogue. On le sait, plus vous dialoguez avec les gens, et plus ils vous connaissent vos catalogues, et plus ils sont à même de défendre, et plus ils ont envie de lire vos livres, et donc de les défendre encore plus à table. Il est évident que chacun de nous trois, nous avons des très belles maisons, mais que c'est encore plus attirant et encore plus séduisant d'être à trois. À plusieurs, c'est bien. Donc voilà, tout simplement, donc on a lancé une opération où on a fait un premier petit déjeuner à Lyon avec des libraires qui a plutôt bien fonctionné. On va recommencer à Rennes le 24 juin. Voilà, l'idée c'est de se dire, ok, on est dynamique et on n'attend pas simplement que ça se passe, on va aussi à la rencontre d'eux en proposant des choses.
On présente nos maisons, on présente le programme. On donne des livres, parce que les libraires, ils aiment bien qu'on leur fasse des cadeaux. On leur donne un petit dossier où voilà, il y a tout un dossier de presse, tout un blabla sur, et nos catalogues. Et le but, c'est de faire un effet de connivence et de proximité avec les libraires, parce que c'est pas notre métier. Normalement, nous, on paye notre diffuseur-distributeur, justement, c'est-à-dire les représentants de Sherman et Moody, pour passer chez les libraires. Donc nous, on n'a quasiment aucun contact avec les libraires. Donc là, on essaye de créer un lien direct pour aider évidemment notre diffuseur distributeur. Un lien direct, voilà, de sympathie. On se dit que bah, maintenant qu'ils nous ont vus faire notre numéro à 3, bah, ils vont se souvenir de nous. Et puis quand le représentant va présenter la fiche des nouveautés, bah, voilà, ils sauront qui on est et ils porteront une attention plus particulière à nos livres. Pour toute raison, si on leur a montré les maquettes, qu'on leur a présenter vraiment notre programme quelques mois par an.
Et donc fin août, une nouvelle opération qui, enfin, on ne peut pas s'empêcher de pas, enfin, on peut pas penser hors de la rentrée littéraire quand même. Vous l'avez placé sous le signe de la littérature de l'imaginaire française.
La fantasy même française. Là, on a profité. Il faut que nos trois maisons parviennent un tant soit peu à coordonner leur parution. Et donc, en l'occurrence, à trouver sur certains mois un point de rencontre où on a des parutions semblables pour qu'on puisse faire un petit effet. Là, ce n'était pas encore concerté, mais il se trouve que voilà, le hasard heureux a fait qu'on avait trois titres de fantasy française par trois auteurs en plus, et c'est quand même assez extraordinaire pour des toutes petites boîtes comme les nôtres, trois auteurs qui sont d'énormes vendeurs. C'est quand même notre fierté et notre bonheur économique, d'avoir réussi à avoir quelques auteurs qui sont des très très bons vendeurs. Donc on communique sur ces trois auteurs, à savoir Armand Cabasson pour ActuSF, Justine Yogret chez Nemos et Jean-Philippe Jabarski chez Moto Électrique.
L'idée, c'est toujours l'idée de la visibilité, bien entendu, parce que on peut faire des choses ensemble. Donc on se dit que sortir 3 livres de fantasy française au même moment, avec une soirée de lancement, avec des opérations de dédicace, ça nous met un petit peu plus de visibilité sur les 3. En fait, on fait ce pari-là, de dire on joue la synergie, et du coup, ça nous apporte et ça rejaillit sur les 3. Avec en plus des choses que... Donc plus de visibilité, donc sans doute les lecteurs un petit peu mieux informés. On lance aussi notre magazine gratuit à ce moment-là pour encore plus les informer. Les libraires, eux, auront des bons commandes dédiées. Voilà, on essaye de mutualiser, de faire un véritable événement pour que ces 3 auteurs et ces 3 livres en bénéficient. Quoi.
Alors, il est question de cette rencontre, de cette visibilité. Hein, je l'ai dit, c'est vrai que malheureusement, on est dans ce pays un petit peu élitiste où des gens se croient à la bonne place pour dire qu'est-ce qui est de la bonne littérature et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et paradoxalement, quand on se déplace ou quand on a l'habitude de faire certains salons, etc., etc., on peut constater aussi parfois que dans votre public, il y a une sorte de grande fierté d'appartenir à la famille de la fantasy, de la science-fiction, de l'imaginaire. Et quelque part, c'est aussi... Des fois, on sent de la part de ce public-là, de ce lectorat, hein, là je parle du lectorat, on n'est pas prêt à partager tout quand même. Hein. Si on peut parler un langage un petit peu hermétique, non. C'est vrai chez les rôlistes aussi.
C'est vrai. Mais justement, ça rejoint les rôlistes en ce sens que c'est néanmoins de moins en moins vrai, car depuis quelques années, il y a le phénomène geek, savoir qu'on a valorisé le fait d'être geek, que c'est devenu, bon, il y a plusieurs générations maintenant de personnes qui ont la geek attitude, des parents qui sont geeks et leurs enfants sont geeks, donc c'est valorisé, c'est très large, et par conséquent, ce public qui était minoritaire, il serait grand temps que la culture officielle française se rende compte qu'il est majoritaire. Et c'est là notre... un grand combat qu'on a à mener, c'est aller auprès des geeks qui ne vont pas en librairie. Car en grande partie, les libraires sont encore inscrits dans la culture officielle, de la littérature blanche avec un grand L, et beaucoup de libraires ne veulent pas de science-fiction fantasy, soyons clairs. Ils ont tort au point de vue commercial, de toute évidence, sans parler du point de vue culturel. Et un de nos défis, c'est d'aller vers le public qui ne va pas forcément en librairie, parce qu'il ne trouve pas ce qui l'intéresse dans les librairies. On a fait l'autre jour un premier salon qui s'appelle Geekopolis à Paris, n'est-ce pas, le titre veut tout dire, et on a été très agréablement surpris, non seulement c'était immense et visiblement bien organisé, mais il n'y avait pas des mômes. Il y avait toutes les tranches d'âge et sont passés sur le stand des moutons des lecteurs, mais des lecteurs qui ne vont pas en librairie, typiquement. Des gens qui nous découvraient, et on a vraiment un gros travail à faire de visibilité, parce que ces gens qui nous découvraient, c'est notre public. Tous les livres qu'on fait, ils sont pour eux. Or, ils ne nous connaissaient pas. Parce qu'il n'y a pas la médiation du libraire. Il y a des très bons libraires, il y a des libraires spécialistes dans nos domaines. Ce dont nous souffrons, c'est qu'il n'y a pas assez de libraires spécialistes dans nos domaines. Or, le libraire est essentiel.
Il manque aussi la médiation du journaliste, aussi, enfin, le journaliste littéraire.
Ça manque également. Ça manque de moins en moins au niveau des bibliothèques, il nous semble. Il nous semble que les médiathèques, qui étaient pourtant profondément ancrées dans l'idéologie littéraire française, ont prodigieusement évolué. Elles ont fait ces pas-là parce qu'elles sont en contact réel avec le public, certainement. Et d'ailleurs, il y a un nombre prodigieux maintenant de médiathèques qui fait des semaines ou des journées, des animations sur les imaginaires. Donc cette médiation-là, on a réussi à la gagner. Et en librairie, il y a une résistance culturelle phénoménale qui fait que c'est dramatique. Si telle personne qui vend super bien la SF Fantasy échange de rayon ou quitte la librairie, et ben on a notre chiffre d'affaires qui fait bloup tout de suite, parce que il faut pas oublier qu'un livre, ça se vend surtout par les libraires, et que c'est les libraires qui font les vrais succès. Or, on manque en littérature imaginaire de vrais, très gros succès, comme ça a été le cas de la Horde du contrevent de Damasio, qui a été un succès fait par le bouche à oreille, notamment par le libraire. Jean-Claude Izzo au Polar n'aurait jamais existé si les libraires n'avaient pas eu un coup de cœur pour lui. Donc on manque encore de relais au...
On n'est pas non plus au point d'entrée de publier de l'imaginaire dans la catégorie dans la littérature blanche, enfin, je veux dire...
Mais parce que ça aussi, ça a évolué. C'est-à-dire que les seuls qui... Enfin, là, je m'exprime un peu plus personnel, j'ai l'impression que la seule catégorie qui n'a pas évolué, c'est les libraires. C'est-à-dire, chez les maisons d'édition, ils ont évolué. Parce qu'il y a des jeunes gens, tout simplement. Il y a des jeunes gens nouveaux qui sont arrivés, qui sont devenus directeurs littéraires, et qui ne font pas ou beaucoup moins l'ostracisme entre la haute culture et la culture populaire, et qui peuvent très bien publier, effectivement. Monsieur Toussaint Louverture a publié Émile Le Marcheur de Russell Hoban, qui est un pur roman de science-fiction, et ô combien pur, parce que c'est un bouquin. Il faut s'accrocher pour rentrer dedans. Et c'est un éditeur généraliste. Voilà, mais on manque de ça chez les libraires.
Les lignes sont sérieusement en train de bouger, c'est ce qui est intéressant, c'est que même en termes de médiatisation, cet ostracisme que éventuellement on pouvait ressentir il y a encore 10 ans, tout ça c'est quand même en train de changer un petit peu. Le monde vient de faire un papier sur Bassil de Lapi et les Farailleurs des Mers au Diable Vauvert avec une interview et une grande chronique. Le soir est là. Évidemment, on aimerait plus, mais les choses sont en train de bouger. Et puis, la science-fiction, alors est-ce qu'on nous vivons une ère de science-fiction ou pas, on peut en discuter, mais il est sûr que la médiatisation et les grands succès en film ou en young adulte, tout cela déclenche aussi un pot commun culturel, ce qui fait qu'on a certains types de science-fiction qui se retrouvent en littérature blanche. Alors, parfois pour des raisons commerciales, et puis parfois parce que ça semble tout à fait naturel et ça fait plus du tout peur aux éditeurs. Donc, les lignes bougent, les choses changent très clairement. L'évolution du genre et de la littérature change aussi énormément. On parlait des salons, par exemple. Nous, on note quand même des ventes sur les salons qui sont en train d'augmenter, des salons qui ont beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de public, et dans des salons généralistes. Enfin, on n'a pas du tout peur d'y aller, quoi. Hein. Il y a évidemment parfois toujours une petite vieille qui nous dit « Ah, la science-fiction, j'en dis pas. » Mais elle va voir ailleurs et puis c'est très bien. Mais au sein du Livre de Paris, on va le livre, quoi. Ça pose vraiment aucun souci.
Alors justement, une maison d'édition telle que Le Diable Vauvert, on vient de l'évoquer, vous venez de l'évoquer, est-ce que ça vous fait... Parce que finalement, ils proposent dans leur catalogue... Tout en se prémunissant du fait de ne pas être des gens très très sérieux qui vont publier que des choses très très tout en haut du panier, ils s'autorisent à publier même de jeunes auteurs qui font de la science-fiction, je pense à Grégoire Ingé par exemple. C'est des gens qui vous pensez, qui vous aident ça dans cette espèce de visibilité à gagner, à conquérir.
Alors la vraie visibilité au niveau des libraires, très clairement. Le Diable, c'est une maison atypique parce que c'est créé par Marion Mazorie, qui était avant directrice de collection de la collection science-fiction chez GELU, qui a créé une collection qui s'appelait Nouveau Millénaire chez GELU. Et Marion, si je me trompe, elle a toujours eu cette volonté de briser un petit peu la barrière, et notamment la barrière graphique, entre la littérature générale et la littérature de genre. Est-ce que Le Diable nous aide ou pas? Oui, sans doute, mais ce qui compte et ce qui est important, c'est notre présence en librairie. Donc c'est pas Le Diable qui fait notre présence en librairie. Notre présence en librairie, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a le young adult qui est arrivé, parce qu'il y a des gros éditeurs qui sont mis à publier énormément pour occuper tout l'espace. Ça commence par un des maisons d'édition, je pense. Je laisse deviner laquelle c'est. Donc voilà, c'est Le Diable Vauvert et Mélange, c'est bien, il faut leur job, en même temps, ils ont tout un tas de corps reconnus. La science-fiction, c'est dans leur ADN. On ne peut pas publier un livre de Pierre Mordage ou Bernard Blatt tous les ans, enfin plusieurs, sans être à un moment catalogué aussi éditeur de genre. Mais ils ont ce talent-là de pouvoir être dans plein de genres différents.
Mais du coup,
est-ce
que ça vous inspire quelque part à ouvrir vos catalogues?
C'est le cas déjà. C'est d'ores et déjà le cas. C'est pas encore le cas chez Nemos, mais ça le... Ça arrive, enfin, il y a déjà un premier, Nicolas Bouchard, qui est paru il y a très peu de temps et qui est mis en vente en polar. Là, je ne sais plus quand est-ce qu'il paraît, le Chalassieux, mais c'est très littéraire alors que c'est de la fantaisie, ça ressemble à de la fantaisie. Voilà, donc eux aussi ils s'ouvrent. Moi j'ai bénéficié, même sur un titre, une des meilleures ventes des moutons électriques, c'est le Faiseur d'histoire de Stephen Fry. Et j'ai bénéficié de l'aveuglement ostraciste des autres. Savoir que moi, je l'ai mis, j'ai acheté ce titre. Il faut savoir que Stephen Fry, c'est un dieu vivant en Angleterre. Mais véritablement, on n'imagine pas en France à quel point il est célèbre. On le considère comme monument vivant. Il a publié 3 romans chez Gélu, enfin chez Benfond, édité plusieurs fois chez Gélu, donc grosse vente. Ils n'ont jamais acheté les droits de Making History, le faiseur d'histoire, parce que pour dire quelle horreur, c'est la science-fiction. Moi je l'ai acheté à un prix tout à fait raisonnable, et je l'ai mis en vente en rayon littérature générale. Et ça a super bien marché. Voilà. Donc là j'ai bénéficié, là, c'est incroyable que je puisse avoir. Un mec aussi célèbre que Stephen Fry, c'est stupéfiant.
Est-ce que vous constatez déjà, alors je sais, ça vous êtes tout neuf en tant que les indés imaginaires, mais est-ce que vous pensez que vous allez avoir carrément un nouveau lectorat, ou finalement ça va être l'assemblement de vos 3 lectorats en fait?
C'est une bonne question. On est trop jeune pour dire. Évidemment, on serait ravis de constater. Dans les mois qui viennent, une hausse générale de nos ventes. Voilà. Évidemment, on serait ravis de grossir véritablement. Pour l'instant, on y travaille. Donc, il progresse. Est-ce qu'on aura un autre public? Moi, je suis persuadé que, enfin, c'est ce que disait André sur beaucoup, c'est que le public des littératures de l'imaginaire, c'est pas simplement un fandom de 1000 ou 2000 personnes, et qu'il est beaucoup plus large, puisque quand on va dans un salon généraliste, on vend des livres. Pas forcément peur aux gens que font la science-fiction et la fantasy. Il y a des salons comme Gimopolis où on a à la fois des gens qui se costument en steampunk et des gens qui font du jeu de rôle et on vend des livres. Donc on a des gros succès de science-fiction dans des collections de littérature générale. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir un public plus large.
Moi je pense qu'on peut le. De toute façon, c'est notre défi, mais je pense qu'on peut atteindre le public de Geekopolis, pour dire les choses très simplement. On peut élargir notre public. En 2014, je ne vous dirai pas quoi, mais on fait déjà une première opération éditoriale qui vise à cette ouverture à un public un peu plus large. En 2015, on a aussi eu une idée de fou qui devrait permettre ça. Voilà. Donc, on travaille à récupérer tout ce public qui est pour nous et qui ne va pas en librairie, donc ne nous voit pas assez.
On va clore cette rencontre sur ces beaux projets, sur cette note d'espoir. Il est temps pour vous, si vous avez des questions dans le public.
Je voudrais revenir sur la notion de... Bon, on en a beaucoup parlé de visibilité. On a parlé des libraires, mais est-ce que pour vous, les blogs ont aussi une importance pour mettre en avant, parce que je sais qu'il y a... Est-ce que ça appartient à une communauté du coup, qui est elle-même fermée, ou bien est-ce que vous pensez que les blogs apportent une ouverture? Il y a la communauté de Planète SF aussi, ou des choses comme ça qui contribuent, il me semble.
Évidemment. Alors, la visibilité, c'est un ensemble de gouttes d'eau qui, de temps en temps, font une flaque et parfois une mer. Le truc, c'est qu'on peut. Enfin, il serait complètement stupide de négliger les blogs, alors qu'ils ont de l'audience, qu'ils font un joli travail, qu'ils sont demandeurs et qu'ils suivent. Quoi. Donc évidemment, les blogs participent. Et aujourd'hui, quand on a des revues de presse, évidemment, on souhaite avoir des articles du monde, mais ce qui ressort le plus, c'est quand même des articles de blogueurs. Quoi. Et ça nous a apporté, plutôt que d'avoir 3 chroniques dans 3 magazines, d'un seul coup on en a 15, dont 12 qui sont sur le blog. Donc oui, le blog est un public important, très bien.
Ça fait partie de ce public Geekopolis, si j'ose dire. Ça fait partie du fait qu'on ne s'adresse plus seulement au premier cercle, une autre métaphore qui existait fut un temps. Mais que voilà, on s'adresse aussi au deuxième cercle, et c'est ce deuxième cercle qu'il faut absolument. Alors, c'est pas facile à gérer les blogs, en ce sens, alors c'est bien parce que c'est une démarche volontariste, c'est-à-dire que chacun peut ouvrir un blog, et quelqu'un qui ouvre le blog, il le fait parce qu'il en a envie, et uniquement parce que c'est pas son job. C'est pas facile à gérer en ce sens qu'il y en a une multitude, que beaucoup nous demandent des exemplaires gratuits et qu'on se demande toujours si ça vaut la peine de donner un exemplaire gratuit à celui-là plutôt qu'à tel autre, parce qu'on ne sait pas l'audience, enfin, dans la plupart des cas, on sait pas le... on a du mal à juger de l'audience réelle de tel ou tel blog. Mais c'est un phénomène, moi-même je suis blogueur depuis 2001, donc il se trouve que je suis un des plus vieux blogueurs de France. Donc je ne vais pas dire le contraire, évidemment, je trouve que le phénomène du blog c'est extrêmement important, c'est une démocratisation du conseil de lecture.
La question des réseaux sociaux se pose aussi, parce que vous brassez du public entre guillemets, on va dire adolescent aussi. Enfin, on sait que les littératures de l'imaginaire sont très prisées par les jeunes grands lecteurs, enfin, voilà, on va dire ça comme ça, et que typiquement, ils ne sont pas les premiers à se jeter sur le monde le vendredi. Par contre, ils peuvent créer l'événement dans une librairie juste via Facebook ou Twitter.
Alors je ne sais pas si on touche ce public-là, pour l'instant. On va travailler aussi à le toucher, en l'occurrence, mais pour l'instant, j'en suis pas persuadé. Mais si c'est dit, les réseaux sociaux, ça c'est certain que c'est super important. Alors là, je vais faire une remarque cynique juste pour vous faire rire. Bon, on a communiqué, donc, on en parlait tout à l'heure, contre le dispositif Relire. Alors, pour être parfaitement cynique, on a drôlement bien fait. On n'a jamais eu autant
de visibilité,
sur Facebook. Mais à un point, waouh!
Aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait se dire, pas de réseaux sociaux, quoi.
Nous,
on ignore les blogs, quoi. Soit on gagne des millions et on a tout compris la vie, mais on a plutôt des démarches volontaristes et on est tous plutôt en train d'essayer de tirer vers le haut. Donc oui, on est sur les réseaux sociaux et on s'y investit. Oui, on essaie de travailler à destination des blogs. Oui, on est sur les salons. C'est des choses, il y a 10 ans, il y a des gens qui n'allaient pas en salon, quoi. Il n'y a pas très très longtemps, il y a encore 5-6 ans, il y a des gens qui nous expliquaient que... être sur Facebook, loin de moi l'idée, et puis alors communiquer, oulala, c'était compliqué, quoi. Évidemment, on est obligé de faire feu de tout le monde, quoi. Donc, les réseaux sociaux, les newsletters, partout, quoi.
Ça, c'est un apport des AD, et de Jérôme en l'occurrence, c'est que les moutons électriques et Mnemos n'allaient jamais sur les salons. Et là, ça fait 7 salons d'affilée, n'est-ce pas? On est un peu fatigué. Mais néanmoins, Jérôme a eu raison, il faut qu'on continue et qu'on fasse plein de salons. C'est un des nouveaux phénomènes. Pour toucher le public.
Oui, moi je voulais revenir sur... Vous avez beaucoup parlé des libraires, et je suis un peu étonnée que vous accordiez autant d'importance, puisque si j'ai bien suivi les dernières données de l'Observatoire du Livre, il n'y a plus qu'à peu près 30% des ventes qui se font en librairie, et qu'il y en a de plus en plus qui se font sur les plateformes type Amazon, App Store et autres. Et on ne trouve un bouquin sur Amazon que quand on sait ce qu'on cherche. Est-ce que vous avez une stratégie globale ou des idées à proposer pour améliorer la visibilité de vos livres, par exemple, sur les plateformes de distribution?
Sur les plateformes de distribution, c'est compliqué. C'est plus simple sur le numérique. Parce que sur le numérique, on a des vrais espaces de discussion avec les gens qui offrent globalement Amazon, met en avant un certain nombre de promotions sur des livres numériques. Donc là, effectivement, on peut aller discuter avec eux. C'est difficile, après, sur les livres papier. Pour revenir à ta question, les librairies, c'est quand même très important parce que, alors par exemple, pour aujourd'hui sur ActuSF, moi j'estime qu'on fait 70 à 80% de nos ventes en librairie, encore. Donc le chiffre de 20 à 30% est quand même pas négligeable, hein, et puis il a tendance à augmenter, mais notre premier canal, c'est quand même les libraires, donc il faut bosser. Après, la problématique Amazon, c'est effectivement une problématique de contact et de relationnel. Et ça c'est compliqué, mais Amazon, par exemple, pour AQSS, c'est notre premier client. Donc à la fois, je prends bien plein de mal, et puis à la fin, ils vendent des livres, quoi. Mais les gens, je prends bien plein de mal.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas leur parler.
Vous pouvez mettre des mots-clés. C'est ça qui servira à trouver des livres. Est-ce que vous avez des mots-clés à proposer?
Ça c'est aussi une discussion avec notre diffuseur-distributeur qui s'appelle Harmonia Boudi, qui gère le relationnel avec Amazon. Donc ça, c'est un chantier des indépendants de l'imaginaire. Il est évident qu'on discute, c'est bien pour ça qu'on est trois chez nous et qu'on est chez le même diffuseur, parce que c'est plus simple en tant que collectif de pouvoir aller discuter avec le diffuseur et d'obtenir des choses du diffuseur et de faire pression pour qu'il fasse plus attention à Amazon ou Fnac.com que si on était tout seul, quoi. Il n'y a pas de stratégie arrêtée sur Amazon. Peut-être qu'on en discute. on va pas les racheter tout de suite. Mais ce qui est à l'issue, pourquoi pas.
Non, on va d'abord racheter un bonnet maudit, de toute façon.
On va aller au Luxembourg et on fera pas d'autre.
Une autre question, un peu plus réaliste que les commentaires. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à cette rencontre. Merci beaucoup.
Merci.